terrienne et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue dans l'heure fantastique.
L'émission consacrée au fantastique.
Sous toutes ses formes.
Et des formes, il y en a eu pléthore durant ces quatre saisons.
Du merveilleux, de la science-fiction, un peu d'horreur et de gore.
Des livres, des séries, des films.
Des bons, des très bons.
Et des beaucoup moins bons.
Des interviews fantastiques, des rencontres et...
Et c'est fini.
Oui, cette émission est en effet la toute dernière.
Mais vous savez quoi? On va attendre la fin pour pleurer.
Allez, pour clore en beauté ces quatre saisons, nous avons choisi un thème inédit, un thème monstrueux et un peu humide sur les bords.
Les monstres marins!
Alors, voilà ce qui va se passer.
D'abord, nous irons explorer les grands classiques pour faire la chasse aux grosses bestioles sous-marines.
Âmes sensibles et aquaphobes, s'abstenir.
Ensuite, ce sera au tour de Karine et de Coralie de nous entraîner dans les profondeurs des océans, respectivement avec la chronique de la débutante et la bibliothèque jeunesse.
Puis, comme d'habitude, nous nous vautrerons dans la pauvreté scénaristique, les effets spéciaux pourris et les répliques mollassonnes, avec la périlleuse rubrique du film de Pucelle.
Et enfin viendra le temps des conseils, des astuces, des réponses aux questions que vous vous posez, et même à celles que vous ne vous posez pas.
Et tout ça, c'est la dernière heure fantastique sur Radio Sainte-Afrique.
Pour commencer, posons un peu les bases. Qu'est-ce qu'un monstre marin?
Alors, c'est assez large comme concept. Disons que c'est un truc qui vit sous l'eau et que l'on peut qualifier de monstrueux. Ce qui, vous me l'accorderez, est assez subjectif en termes de jugement.
Du coup, comment est-ce qu'on distingue la poiscaille ordinaire du monstre marin?
Plusieurs éléments entrent ici en jeu. Ça peut être la taille, tout d'abord. La plupart des monstres marins se distinguent par leur énormité. Un poulpe, c'est un peu dégueu. Mais pas de quoi s'affoler.
Et c'est très très bon en salade.
Par contre, un poulpe géant, là, ça fait flipper.
Géant comment?
Disons de taille à attraper un bateau entre ses tentacules, assez fort pour le broyer et assez affamé pour l'avaler tout cru.
Ah ouais, tu parles du kraken là en fait.
Exact. En bonne place dans le top 3 des gros machins flippants des profondeurs, le kraken apparaît dans de nombreuses légendes, livres et films.
On l'a vu dans Pirates des Caraïbes par exemple.
Et il faut l'avouer, il était beaucoup moins sexy que Jack Sparrow. Cette grosse bête gluante est censée remonter de temps à autre des abysses dans lesquels elle vit et se jeter goulûment sur les premiers imprudents à ramer dans le coin. Et ce qui est le plus flippant avec les légendes, c'est leur part de vérité. Quelques très, très, très gros poulpes sont en effet découverts de temps en temps, échoués sur une plage quelque part dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. On peut alors voir des gars tout sourire faire un selfie à côté d'un tentacule de 5 mètres et les chats du coin se lécher les babines. En attendant, les grands frères du machin sont toujours au fond de la flotte et ils attendent.
We'll be right back.
Le plus étonnant avec les monstres marins, c'est qu'on n'en trouve pas que dans la mer.
Alors, si on veut être un tout petit peu précis, question vocabulaire, on va parler de créatures lacustres.
Qui vivent dans des lacs.
C'est ça.
Vous suivez mon regard? Voilà l'Écosse, le Loch Ness évidemment. La plus célèbre des créatures lacustres, c'est bien sûr Nessie. Légende, objet de littérature, de cinéma et d'un commerce touristique indéniable, Nessie est surtout un gros timide qui ne se montre pas facilement à la surface.
En attendant de voir l'ombre d'une bosse affleurer sur le lac, les passionnés se perdent en hypothèses et conjonctures à son propos.
La plus populaire fait de lui un dinosaure un peu plus malin que les autres, qui aurait survécu à l'extinction des copains planqués au fond du lac. Ce qui est intéressant, c'est de regarder de plus près les légendes concernant les créatures lacustres, et de voir que tout ça remonte quand même à super loin. Longtemps avant les photos truquées et les attrapes touristes à l'image de Nessie, des récits, des témoignages, font état de chevaux géants sortis du lac ou de pêcheurs disparus mystérieusement.
Mais, même s'il tire toute la couverture médiatique à lui, il n'y a pas que le Loch Ness qui soit concerné.
Si Nessie est le plus célèbre, de nombreux autres monstres des lacs font leur apparition un peu partout dans le monde. Vous trouverez ainsi Champy au lac Champlain dans le Vermont aux États-Unis. Les récits concernant ce serpent géant datent d'avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique. Les Indiens nommaient le monstre Chaou-Sarou et l'explorateur Samuel de Champlain a raconté l'avoir vu en juillet 1609. Vous trouverez également Ogopogo, aussi appelé Naitaka.
Alors, soit en Salish, langue que bien évidemment je maîtrise, le démon du lac.
Au lac Okanagan, dans la province canadienne de Colombie-Britannique. Ici aussi, les légendes amérindiennes ouvrent le bal, suivies par les récits des premiers colons, dont certains disparaissent d'ailleurs mystérieusement aux abords du lac. Beaucoup tendent à ne faire de ces apparitions que de vulgaires canulars, voire...
Et c'est pas con du tout.
Un moyen de redynamiser un peu l'économie locale en attirant des touristes. Il est tout de même surprenant de remarquer que les légendes amérindiennes, venues de tribus parfois très éloignées, les légendes écossaises et les récits des explorateurs, dresse finalement des portraits assez semblables de ces créatures aux faux airs de plésiosaures. Moi, j'ai envie d'y croire.
Bon, on a compris, des monstres, on en trouve dans les océans, dans les lacs...
Et dans la mer aussi, bien sûr, notamment dans la Méditerranée. Et ça, c'est Homère qui le raconte le mieux, dans l'Odyssée. Pour résumer l'Odyssée...
Pour résumer, on ne résiste pas à vous passer Jean Rochefort dans les Bolosses des Belles-Lettres.
C'est Ulysse qui revient de la guerre de Troie, qui se gourde toboggan chez Aqua Boulevard et qui atterrit dans les bains bouillonnants de Calypso, la nympho. Ulysse 31, il a chaud. Calypso, elle lui tape un baratin infernal pour qu'il plante son dard dans sa fleur voluptueuse. Mais lui, il veut trop pas, à cause de sa fidélité monogame. Il a sa zouze, Pénélope Jolicoeur, qui l'attend aux courtes pailles, en brodant sa tapisserie. Sauf qu'elle se fait vilipender le cul par des dizaines de bad boys, tous mieux gaulés les uns que les autres. Il débarque chez Nausicaa, une petite bombasse d'Orient, et chez son daron, Alcinous, qui a des palmerets de gros wellouf. Ulysse, il commence à déballer sa life, genre, il lui est arrivé, v'là les couilles. 1. Circé, la sorcière, a transformé tout son crew en petit porcinet triste. 2. Il a bolossé Polyphème, le cyclope géant, en se faisant passer pour personne. Et 3. Ulysse s'est fait un délire bondage au mât de son frère d'esquif pour tester les vagues maléfiques de Nolwenn le roi en Dolby Surround. Et un petit peu pour voir ses boobs aussi. Finalement, il rentre au bercail, il y a Ita qui se fait un petit cosplay, où est Charlie. Il n'y a que son clébard qui connaît le bouquin, donc il le reconnaît easy. Après, il retrouve son fiston, Télémax, et la grosse embrassade paternelle. Après moult précautions, il voit les mamelouks qui font subir un boucaqué dantesque à sa zouze. Mauvais délire. Ulysse, il n'en peut plus. Il sort son glaive foudroyant et les émascule tous, un par un. Finalement, tout finit bien. Ulysse retrouve Pénélope. Il lui refait le bastingage sur le lit nuptial pendant que Télémaque joue à Docteur Maboule avec le chien. Et il perd. Oh, la victime. C'est les otaku, otake, aïtak. C'est la quête de l'identité et de la fidélité éternelle. C'est sexe oral chez les phéaciens. C'est The Voice dans ta croisière, Costa. C'est l'Odyssée. Homer, d'alors.
On n'aurait pas dit mieux. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour Jean en 2017.
Et dans tout ça, des monstres marins, il en croise quelques-uns, Ulysse. Scylla, les sirènes, et on compte ni les cyclopes, ni les sorcières.
Fallait pas mettre Poséidon en rogne, mon gars. C'était très très chelou, on est d'accord ?
Oui, un peu.
Ok, bon, puisque tu en es consciente, on continue avec un classique de l'horreur sous-marine ?
Le mythe de Cthulhu regroupe une série de nouvelles écrites par Howard P. Lovecraft. Ces textes évoquent un monstre, non, bien plus qu'un monstre. Cthulhu est un dieu extraterrestre qui gît dans les profondeurs de la mer. Tout au fond de l'océan, dans sa cité en ruine, Haile, il dort. Mais dans son sommeil, il s'adresse en rêve aux humains. Certains, parce qu'ils sont plus réceptifs, plus sensibles, entrent en connexion avec lui. Ils se mettent alors à lui rendre un culte.
Parce que c'est ça que veulent les dieux.
Mais pour celui-là, il n'est pas question de miséricorde. Le culte de Cthulhu est teinté d'horreur. L'idole que ses adorateurs modèlent à son image est abominable.
Lovecraft l'a décrit ainsi. Elle représentait un monstre vaguement anthropoïde dans ses contours, mais avec une tête de pieuvre dont la face n'était qu'une masse de tentacules. Un corps squameux d'aspect caoutchouteux, des griffes formidables aux quatre membres et deux longues ailes minces sur le dos.
Ceux qui enquêtent sur l'idole et sur le culte qui va avec se retrouvent rapidement confrontés à des expériences teintées d'horreur. Mais Cthulhu n'apparaît jamais vraiment. Pas directement en tout cas. Il transparaît à travers les rêves. L'ombre d'un tentacule porte jusque dans le récit d'un témoin, survivant en sursis de l'appel du dieu. Et c'est ça qui rend si effrayants les textes de Lovecraft. On n'est pas face à un monstre marin ordinaire. Ce n'est pas une grosse bête pleine de dents qui bouffe les nageurs. Cthulhu vient nous dévorer jusque dans notre sommeil. Dans nos rêves, il nous appelle. Et c'est nous qui ensuite irons à lui. L'aspect onirique est essentiel chez Lovecraft et culmine régulièrement dans un rêve éveillé qui devient folie chez de nombreux personnages. Et comme les songes, la démence a ceci d'épouvantable qu'elle ne parvient plus à distinguer la réalité de l'imaginaire. L'abîme dans lequel Lovecraft nous plonge n'est pas seulement marin, il est en nous.
Et ça, c'est vraiment flippant.
vous êtes des amateurs du genre et aussi un peu curieux, je vous conseille très vivement la lecture de « Moi, Cthulhu » de Neil Gaiman. Ce génie de la littérature anglaise contemporaine reprend le mythe à sa sauce en racontant une interview de Cthulhu. C'est très drôle, très fidèle au texte original et hyper bien renseigné en termes de références littéraires et mythologiques, comme toujours chez Gaiman. Bref, c'est juste un petit bijou qu'il vous faut impérativement.
De toute façon, lisez du Gaiman, ça peut que vous faire du bien.
Et c'est sur cette parole pleine de sagesse que nous passons à la chronique suivante. Une débutante, un film culte, c'est la chronique de la débutante.
Et ce mois-ci, Karine découvre les dents de la mer. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been high, I was sad and blue.
Ah, les belles soirées d'été sur l'île d'Amity. On se réunit sur la plage au coucher du soleil, on gratte un peu la guitare autour du feu de camp, on fume des cigarettes qui font rigoler, on court tout nu dans les dunes pour aller prendre un bain de minuit, on barbote, et puis... Oups, désolé. J'ai oublié de vous prévenir que pour cette heure fantastique consacrée aux créatures marines, j'ai regardé les dents de la mer. Évidemment, si j'avais commencé par ce son, vous auriez sans doute deviné tout de suite. Bref, reprenons depuis le début. La saison estivale s'annonce prometteuse dans la charmante station balnéaire d'Amity. L'organisation de la fête du 4 juillet bat son plein, le soleil est au rendez-vous et des milliers de touristes sont attendus sur les plages. Oui, mais voilà, on vient de découvrir le corps atrocement mutilé d'une jeune fille. Hélice de bateau? Non. Pour Martin Brody, le chef de la police, pas de doute, il s'agit d'une attaque de requin. Et il est bien décidé à faire interdire la baignade, ce qui n'est pas du tout du goût du maire de la ville. Notez donc qu'en 1975, déjà, l'intérêt économique passe avant la sécurité. Ainsi, ce qui devait arriver, arriva. Un jour de grande affluence sur les plages d'Amity, un jeune garçon se fait à son tour dévorer. Après cette deuxième attaque, la chasse au requin tueur est ouverte. De Steven Spielberg datant de 1975, Les Dents de la Mer est considéré comme l'un des tout premiers blockbusters de l'histoire du cinéma. Le scénario, la mise en scène et même les effets spéciaux, plutôt modérés, ce que je trouve ici très malin, sont réussis et tiennent encore largement la route quelques 40 ans plus tard. Et puis donc, il y a la musique. Deux notes à peine, devenue culte dans le monde entier. Cette bande originale a valu un Oscar à son compositeur, John Williams. Vous savez ? Le John Williams, qui a composé, parmi tant d'autres, les musiques de Star Wars, Indiana Jones, E.T., Hook, Jurassic Park, Harry Potter, bref, le monsieur s'y connaît un peu. Je dois quand même vous faire une confidence, je ne suis pas vraiment une débutante sur ce coup-là. J'avais déjà vu Les Dents de la Mer quand j'avais une dizaine d'années. Bizarrement, il m'a semblé bien meilleur aujourd'hui. Je m'attendais à me moquer gentiment. Au lieu de ça, j'ai été prise dans la tension, parfaitement maîtrisée, notamment dans toute la deuxième partie, consacrée à la traque du grand requin blanc. Le trio d'acteurs y est remarquable, le requin se fait tour à tour gibier et chasseur, et il y a même un peu d'Hemingway dans certaines scènes. Sachez qu'il y a eu un Dents de la Mer 2, plutôt pas mal. En revanche, vous pouvez très largement vous passer du 3 et du 4, la revanche. Vraiment. Avant de vous dire au revoir, je tenais à remercier Lucille de m'avoir accueillie dans son heure fantastique. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis beaucoup amusée. Et puis, grâce à elle, j'ai enfin vu Star Wars. Et ça, c'est pas rien. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been half, I was sad and blue.
Heureusement qu'on arrête l'émission parce que clairement c'est plus du tout une débutante. Hein.
Mais il y en a une qui conserve son titre, c'est la fantastique Coralie et sa bibliothèque jeunesse.
Quand Lucie m'a parlé du thème de cette émission, elle m'a dit, je cite, « Le thème, c'est les légendes marines, les mystères marins, les trucs en rapport avec de l'eau qui font flipper. » Voilà. Alors, de quoi je vais bien pouvoir vous parler? Je pourrais parler de Moby Dick, il y a plein de chouettes albums dessus, ou bien du monstre du Loch Ness, et vous emmener en Écosse. Mais non, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous faire ouvrir les pages de deux albums haut en couleur. Commençons par l'histoire d'un effroyable pirate. Vous ne connaissez pas le piratosaure? Ce personnage haut en couleur, raconté et dessiné par Alexander? Vous ne connaissez pas ce dinosaure qui écume les mers et attaque tous les galions à vue pour s'emparer de leurs plus précieux trésors? Le piratosaure n'a peur de rien, ni de personne. C'est plutôt lui qui instaure la peur dans une place. Jusqu'au jour où il part à l'attaque du navire de la reine d'Angleterre. Un si joli trésor, il ne veut pas manquer cette occasion. Mais c'est sans compter l'amiral Victor qui fera tout pour sauver la reine et ses biens. S'engage alors une terrible, terrible, terrible bataille navale. Le piratosaure est touché, mais peu l'importe, il ne se laissera pas faire. Il repart à l'attaque et alors, coulé. Son navire est assailli par les boulets du canon du bâtiment royal. Voilà que le piratosaure est fait prisonnier et ramené illico presto en Angleterre. Mais que va-t-il lui arriver? Ah non, je vais pas vous raconter la fin. Le piratosaure d'Alexanders ravira vos enfants de 2 à 7 ans. Cet album très coloré rebondit sur les rimes et les sons. Ajoutez à cela votre plus joli accent anglais, et croyez-moi, vos enfants en redemanderont. Et ça tombe plutôt bien, parce que le piratosaure a plein d'autres aventures à vivre. Vous les découvrirez toutes dans la collection hors-série Giboulée de Gallimard Jeunesse. Dans un tout autre style, laissez-moi vous présenter La Gardienne des Océans, écrit et illustré par Cathy Delancey. Vous trouverez cet album à petit prix aux éditions Tom Poche, et vous pouvez le mettre entre les mains de vos enfants à partir de 6 ans. Alors, qui était cette Gardienne des Océans? L'éditeur nous la présente ainsi. La légende raconte que dans les profondeurs vit la déesse de la mer. Elle enfante les créatures marines, les aime et les protège depuis l'aube des temps. Respectée jadis, elle disparaît de la mémoire des hommes, mais son souvenir sommeille encore. Elle s'appelle Elinée, la gardienne des océans. L'histoire commence sur une île loin de tout autre territoire. Une île où les maisons ont des toits bleus. C'est là que vivent Bastien et sa famille. Ils vivent des poissons qu'ils pêchent et du blé qu'ils sèment. Et cela suffit à leur bonheur. Mais voilà qu'un jour, un énorme bateau noir arrive à proximité de leur île et jette ses grands filets aux mailles coupantes à la mer. Celle-ci, qui était d'un bleu intense avant leur arrivée, devient vite rouge de tous ces animaux marins pêchés, puis rejetés à la mer. Sur la petite île, les pêcheurs peinent à se nourrir. Et puis un jour, l'impossible se produit. C'est la déesse elle-même qui est capturée. Bastien parviendra-t-il à la libérer? Ce conte qui est clairement écologique, et il rencontre une triste, triste réalité. Aujourd'hui, les monstres des mers sont peut-être simplement tous ces gros bateaux noirs. Alors il ne reste plus qu'à éveiller les consciences, et c'est ce que fait Cathy Delancey, à l'aide de sa plume et de ses crayons.
Faites-lui confiance et foncez en librairie.
À présent, l'heure est venue de plonger dans un océan de mièvreries, d'effets spéciaux pourris et de scénarios bancals. Voici la rubrique du film de Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle?
Ouais, pourquoi?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Nous tenons à préciser qu'à l'instant où nous avons écrit cette rubrique, le film venait de se terminer. Nous étions encore sous le choc. Merci d'en prendre compte.
Le film, sorti en 2014, est produit par The Asylum, société spécialisée dans les films à petit budget inspirés de blockbusters. Par exemple, c'est eux qu'on retrouve derrière le splendide Sharknado. Cependant, en ce qui concerne Sharknado ou la franchise des Mega Sharks, il y en a 4 en tout, bon courage, ces films ne sont pas des copies, mais bien des idées originales, si on peut parler d'idées. On espère que la production a beaucoup d'humour et de second degré, et que l'équipe responsable de ceci-là s'est bien amusée en le tournant, et qu'à aucun moment, ils ne se sont pris au sérieux. Alors, on a un vrai débat sur ce point, et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous donner votre avis. En gros, c'est la sécheresse. Les gens vont chercher des icebergs, ils en ramènent un en Égypte, et pas de chance, pendant qu'ils jouaient aux échecs, Pépouze en citant du Bukowski, un gros requin préhistorique sort de l'iceberg et détruit le port d'Alexandrie. De rien. À partir de là, ça va être compliqué de résumer. Pour nous défendre, le montage est poucave, le scénario est à chier, voilà notre tentative. Il y a un gros requin-requin, donc ils construisent un requin-robot pour buter le requin-requin, mais le requin-robot leur échappe, donc ils font en sorte que le requin-requin bute le requin-robot, et les deux, il y a boum ! On ne peut pas faire mieux.
C'est pas un peu court, non ?
Je trouve. Bon, ok. Je risque d'être un peu vulgaire. Hein.
C'est la dernière, fais-toi plaisir.
On est parti !
On leur doit quelques explications.
On va pas faire plan par plan, parce qu'on a assez souffert comme ça, mais on doit en évoquer quelques-uns quand même.
C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout.
Donc, les militaires essayent d'envoyer des torpilles pour buter le requin-requin. Mais il est pas con, ce requin-requin. Et alors qu'on s'y attendait pas, il est très bon en ping-pong avec sa queue. Il leur renvoie leur propre torpille. Boum ! Tout ça grâce à des effets spéciaux assez foufous quand même. L'expression « petit budget » prend tout son sens.
Il y a plus de petits que de budget.
Et là, on se dit que le film est déjà bien pourri. On le savait avant, mais on est toujours prête à se sacrifier pour vous. Mais alors qu'on est au fin fond de l'océan, on se retrouve soudainement dans un avion.
On a eu le mal des transports, alors qu'on était sobre.
Ouais, peut-être là le problème. On passe les détails. On voit le requin-requin faire un bond et monter dans les cieux jusqu'à l'avion. Et là, tu te dis « Non, il va manger l'avion !» Mais non, parce que le requin-robot saute lui aussi au plus haut dans les cieux et dévie la trajectoire du requin-requin et sauve l'avion. Et c'est quand même bien d'avoir un requin-robot qui sait sauter aussi haut. Et il ne fait pas que ça.
C'est le couteau suisse des requins-robots.
Quand il se retrouve sur Terre, sur l'opéra de Sydney, est-ce un requin-robot mélomane ? Probablement. Tu penses qu'il va rester coincé, vu que c'est un robot de requin et que le requin est un animal aquatique ? Eh ben non ! C'est un requin-robot sous-marin tank ! C'est quand même merveilleux ! Ils ont pris le requin-robot toute option.
Il a même la clim.
Mais c'est pas fini. Toujours pas. On voudrait, mais non. Le requin-requin finit par manger le requin-robot, confère notre...
Boum !
Voilà, notre résumé. On retrouve Jack et Rosie. Alors, on vous a pas encore parlé de Jack et Rosie, nos deux héros. Il y a franchement pas grand-chose à dire, mis à part qu'ils s'appellent Jack et Rosie et que ça nous a fait penser à Titanic. Et on espère que c'est fait exprès, parce que c'est le truc le plus drôle de tout le film. Bon, bref. Donc, on les retrouve. On voulait pas, parce qu'à part leur prénom, ils sont franchement inintéressants. Mais bon, ils sont encore là à cause d'une sombre histoire de bébé requin-robot qui est rentré dans le requin-robot et qui en est ressorti. Voilà. Après une douche aux entrailles de requin-requin.
Parce qu'il a fait boum, le requin-requin.
Ouais, gentil. Il se retrouve sur la plage, tout content d'être en vie. Et je pense qu'on a là le pire plan de toute l'histoire du cinéma. Et pourtant, il y avait de la concurrence. La caméra tourne autour d'eux pendant une éternité et demie. Alors, on n'était déjà pas bien mentalement à cause du film, mais histoire d'en rajouter une couche, ces cons nous ont filé la gerbe.
Parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne.
Et en plus, Jack et Rosie n'ont pas eu la décence de couler avec le navire. Rapport à Titanic, tout ça. Même s'il y avait largement de la place pour Jack sur la porte, mais bon, c'est un autre débat. En résumé, Mega Shark contre Mecha Shark, c'est nul. Mais vraiment nul. Même pas nul, mais rigolo à regarder. Hein. Non, c'est juste nul. Après, encore une fois, on était sobre lors du visionnage et notre erreur a peut-être été là, probablement. Ouais. Mais bon, comme on est sympa, on a trouvé un truc à sauver. Il est important de dire que le rôle féminin de Rosie est très bien. C'est elle aux commandes du sous-marin et son mari derrière l'ordinateur. C'est elle qui sert d'appât et c'est bien souvent elle qui a le dernier mot. Comme quoi, c'est possible. Il n'y a plus qu'à appliquer ça dans les films bien. Et maintenant,
on va monter un peu le level avec la dernière rubrique de la dernière émission. Alors, juste au cas où, puisque l'été approche et avec lui vos vacances à la mer, que faire en cas d'attaque de poulpe géant? Comment distinguer les loutres des monstres lacustres? Comment ne pas reproduire les horreurs d'Ulysse si votre GPS tombe en panne en plein milieu de la Méditerranée? Toutes les réponses, toutes les astuces sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. A priori, le conseil le plus logique et le plus évident pour éviter les monstres marins, ce serait de rester sur Terre.
Sauf que, sommes-nous vraiment à l'abri sur la terre ferme et même dans les cieux? Parce que bon, il y a des requins parfois qui attaquent des avions. Hein.
Quand Cthulhu, c'est jusque dans vos rêves qu'il vient vous chercher. Du coup, évitez le bateau, l'avion et le sommeil. Pour commencer, on vous rappelle que vous n'êtes pas beaucoup à l'abri à proximité des lacs et des rivières. À la limite, les lavognes, ça passe.
Et encore, même dans le dourdou, on n'est pas tranquille.
Avouons-le, on est un peu démunis. On va essayer 2-3 conseils de base. D'abord, toujours se munir de boules-quies. À proximité des sirènes, ça sert toujours, et c'est même efficace contre les voisins du bungalow 4B qui font quand même beaucoup de bruit.
N'oubliez pas le petit sacrifice à Poséidon avant de partir en croisière. Alors au choix, un taureau ou votre plus jeune fille, c'est plus sécure.
De même, ne vexez pas Calypso, ne sortez pas avec elle, elle est un peu rancunière. Bref, achetez-vous une piscine à boules, posez-vous dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, le parc municipal, c'est très bien. Et de toute façon, si vous n'avez toujours pas compris qu'ils sont parmi nous et que le danger est partout, nous vous invitons à réécouter les émissions précédentes. Celle-ci touche à sa fin, c'était la dernière. Adieu.